Ambassadeur, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Catherine Bessier, directrice de recherche à l'ONERA, membre du comité d'éthique de la défense au ministère français des Armées et expert à la Global Commission on Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain. Donc, la première question à se poser dans ce cadre, c'est qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Alors, il est bon de rappeler quand même que l'intelligence artificielle n'est pas, bien sûr, une intelligence qui serait artificielle. C'est une discipline scientifique qui est fondée largement sur les mathématiques et qui recouvre un certain nombre de techniques et de domaines applicatifs, comme on peut le voir sur cette illustration où j'ai récupéré le programme de trois conférences nationales et internationales dans le domaine. Donc, si l'on veut parler d'intelligence artificielle dans le domaine militaire, eh bien, il faut préciser de quoi on veut parler, c'est-à-dire se demander quelles techniques on envisage utiliser pour quelles fonctions, dans quels objets, dans quels systèmes, dans quel contexte et avec quelles propriétés souhaitées. Et tout ça, se demander si ces techniques, dans ces fonctions, dans ce contexte, avec ces propriétés, créent de nouveaux enjeux dans le domaine militaire. Et en particulier, on ne peut pas parler d'enjeux de l'IA dans le domaine militaire en général, c'est beaucoup trop vague. Donc, je vais vous donner un premier exemple qui est ce qu'on appelle l'autonomie, dont on parle en particulier dans les armes, hein, les armes dites autonomes. Alors là encore, il y a un problème de vocabulaire, oui, qui crée beaucoup d'ambiguïté et de confusion. On parle de machines dites autonomes comme si on parlait de l'autonomie d'un être vivant. Or, c'est complètement différent. Il s'agit d'un terme de robotique. On parle d'autonomie décisionnelle en robotique, où il s'agit d'automatiser un certain nombre de fonctions dites de haut niveau. Et Jean-Paul Lomon, qui était un grand roboticien français, disait: une machine autonome, c'est une machine automatique dans son milieu. Par ailleurs, on entend aussi le fait que la machine prenne les décisions. Alors, encore une fois, une machine ne prend pas de décision, les décisions sont calculées sur un ordinateur. Donc, il faut à tout prix, si on veut raisonner correctement, éviter l'anthropomorphisme qui suscite tout un tas de fantasmes, d'attentes, des confusions, des erreurs, etc. Donc, il faudrait, dans la mesure du possible, utiliser un vocabulaire scientifique, un vocabulaire adéquat, surtout qui ne personnifie pas les machines ni les logiciels, qui ne projette pas d'aspects moraux sur ces machines et qui ne place pas l'analyse humaine sur le même plan que des calculs. Alors, au comité d'éthique de la défense, nous avons réfléchi donc sur la question des systèmes d'armes létaux dits autonomes et nous avons en particulier posé deux définitions. Donc, la définition du système d'armes létales autonome, où on a posé que les règles de fonctionnement dans un tel système pourraient évoluer automatiquement au-delà du cadre d'emploi fixé, même au-delà des spécifications. Et les décisions, en particulier d'engagement de cible, pourraient être mises en œuvre sans appréciation de situation par le commandement. Donc, on rappelle que la position actuelle de la France, c'est de refuser ce type de système. Donc, à contrario, nous avons défini le système d'armes létales intégrant de l'autonomie, où dans ce système, le commandement, c'est-à-dire les humains, conserve l'appréciation de situation, qui était un moment très important, et le compte-rendu. L'arme est mise en œuvre sous sa responsabilité, dans un espace-temps limité, sous condition, et il s'agit de certaines fonctions critiques qui pourraient être automatisées, par exemple l'identification, la classification, l'interception et l'engagement. Et il faut surtout aussi avoir des garanties techniques relatives aux défaillances et aux détournements, donc garantir une robustesse du système. Le deuxième exemple que je vais prendre, puisque c'est un exemple à la mode, c'est ce qu'on appelle les systèmes d'IA génératives, donc les logiciels de production automatisée de textes, d'images, de vidéos ou de code. Donc, quelques exemples d'usages possibles. Évidemment, il s'agit de systèmes qui exploitent de grandes masses de données. Donc, ils peuvent être utilisés dans le domaine militaire. Par exemple, ce sont quelques exemples, bien sûr, pour générer des scénarios, pour faire des simulations pour l'entraînement et la formation, pour créer des logiciels malveillants pour les étudiants en particulier, pour mettre des assistants numériques sur le terrain en opération, pour effectuer de la traduction en temps réel, pour rédiger des comptes rendus, etc., etc. Alors là aussi se posent un certain nombre de questions et pour la plupart d'entre elles, elles sont nouvelles. D'abord sur le système d'IA générative lui-même, par essence, donc il faut se poser la question du corpus d'entraînement, du corpus sur lequel l'IA générative va bâtir ses réponses. et se poser la question de la fiabilité des réponses. Il faut se souvenir et rappeler qu'il n'y a pas de notion de vérité dans ces systèmes. Il peut y avoir des problèmes de pollution des données, donc qui vont donner évidemment des réponses fausses, polluées. Ces systèmes peuvent servir à produire de fausses informations, mais aussi à détecter les fausses informations. Il y a un risque d'uniformisation des informations et des pratiques, et se pose toujours la question de l'explicabilité, pourquoi le système fournit une telle ressource. Par ailleurs, sur les usages, eh bien, on peut se poser la question de la dépendance au numérique que nous avons déjà tous, hein, mais qui peut être accrue dans le domaine militaire, avec une perte de savoir-faire, puisque la machine fait, donc l'humain fait moins, des problèmes de biais, de facteurs humains, donc de biais de confirmation, le fait de se faire influencer par les résultats de la machine, des problèmes de focalisation attentionnelle, et puis la question de la place du doute, de l'esprit critique et du discernement. Donc enfin, je voudrais conclure avec quelques tensions que l'on doit mettre en exergue. En effet, il existe beaucoup de textes nationaux et internationaux qui traitent de recommandations relatives à l'intelligence artificielle, mais ces textes évoquent peu, voire pas du tout, que les grands principes et exigences qui sont énoncés dans ces textes, d'une part, peuvent être interprétés d'un point de vue technique de différentes manières, et d'autre part, et surtout, ne peuvent pas être simultanément satisfaits. Donc j'ai donné ici quelques exemples, je vais en prendre qu'un. Si on augmente les capacités de l'objet, si on donne plus d'automatisme dans l'objet, ce qu'on appelle l'autonomie entre guillemets, eh bien, il y aura forcément, corrélativement, une perte de l'autonomie, la vraie souci de l'être humain, de l'opérateur, et une perte certainement des compétences humaines. Donc, il faut se poser la question sur ces tensions. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Je fais